all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 88, Alice à cœur ouvert, de l'enfant livré à elle-même, à la femme qui prend son envol. Et oui, vous l'avez compris, c'est le témoignage du mois. Je vous laisse donc vous installer tranquillement et vous souhaite une bonne écoute. C'est parti! Bonjour Alice, bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques, je suis ravie de t'accueillir. Comment vas-tu ?
Bonjour Nadia, bah écoute, je vais bien malgré les circonstances comme ce que je t'avais expliqué, mais ça va. Et je suis contente de pouvoir m'exprimer aujourd'hui à travers ton podcast.
Ça va le faire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux brièvement te présenter s'il te plaît ?
Bien sûr, donc bah moi je m'appelle Alice. J'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans le 27 mai dernier.
Je suis
Merci beaucoup. Je suis originaire de Madagascar, donc je suis née là-bas et je suis venue en France faire mes études après le bac, donc à mes 18 ans. Mmh. Et je travaille dans le marketing aujourd'hui.
D'accord. Alors, une fois n'est pas coutume, Alice et moi allons vous partager comment on en est venu à faire cette interview. Alors, en fait, on ne se connaît pas personnellement, mais le hasard, avec des guillemets, a fait qu'il y a quelques mois, alors que tu n'étais pas au courant, j'ai interviewé une personne que tu connaissais, Inès, une de tes amies.
Et, exactement.
Voilà. Et très peu de temps après l'interview, que vous pouvez retrouver dans l'épisode 76, l'interview d'Inès, vous avez échangé sur ce que vous viviez avec vos parents respectifs. Et c'est à ce moment-là qu'Inès t'a fait part du fait qu'elle écoutait mon podcast « Détox parents toxiques » et qu'elle avait justement partagé son témoignage dans un de mes épisodes.
Oui, c'est exactement ça. En fait, ça a tombé vraiment à une période, puisque moi, je me suis vraiment rendu compte relativement récemment à quel point mes parents étaient toxiques. Mmh. Et le hasard a fait que j'ai vu Inès, qu'elle m'a parlé voilà, de sa situation actuelle avec sa mère qui est toxique également et qu'elle ne lui parlait plus. Et là, de fil en aiguille, on a parlé et j'ai pu découvrir ton podcast grâce à elle. Et ça m'a vraiment ouvert encore plus les yeux. Mmh. Ça m'a permis de mettre des mots en fait sur ce que je vivais et de me rendre compte que c'était pas normal en fait. Et ça m'a vraiment fait du bien.
Ok, d'accord. Ok. Donc, du coup, suite à vos échanges, tu m'as envoyé par la suite un message sur Instagram pour me partager ton désir de vouloir raconter également ton histoire. Et nous voilà.
Exactement. Merci à toi d'ailleurs.
Écoute, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça, vous savez tout, vous connaissez le contexte, les coulisses, hein. Les coulisses de l'interview, de cette interview. Et à l'heure du calendrier, hein, c'est le jour de la fête des pères.
Oui, j'y ai pensé en plus. J'y ai pensé, ça m'a fait bizarre.
Oui, en fait, quand on a posé la date, enfin moi, j'y avais pas pensé, mais enfin voilà, ça s'est fait. Donc voilà.
Oui.
Alors, on va commencer par la fameuse question hein, qui donne le ton de l'épisode. Qu'est-ce qu'un parent toxique pour toi ?
Alors, pour moi, c'est lorsque la relation avec le parent est malsaine et qu'il y a une sorte de volonté, en fait, de dominer la vie de l'enfant, de vouloir prendre les décisions à sa place, de vouloir projeter ses propres désir sur l'enfant et en fait considérer finalement que l'enfant n'est pas un être à part entière mais qu'il appartient aux parents et que l'enfant doit se plier à tout ce que le parent veut en fait et que s'il ne le fait pas et ben il y aura des représailles.
Mmh. Ok, lorsque tu penses aux parents toxiques, à qui fais-tu référence ?
Alors par rapport à mon histoire personnelle, je fais référence à mes deux parents. puisqu'ils sont tous les deux toxiques en fait. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte qu'il ne m'aimait entre guillemets que lorsque je faisais tout ce qu'il voulait, et que ben dès que je ne fais pas ce qu'ils veulent, bizarrement, on n'a plus la même relation.
D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans quelle atmosphère familiale tu as grandi?
Alors en réalité, j'ai pas grandi dans une atmosphère, on va dire. Enfin, pendant mon enfance, je me suis rendu compte vraiment très tard qu'ils étaient toxiques, justement parce que moi, en fait, alors faut savoir qu'on est trois sœurs. Donc je suis la benjamine. D'accord. Et donc on habitait à Madagascar. Mes parents étaient aisés quand même, voilà. Ils avaient la possibilité de nous offrir une bonne éducation, nous envoyer dans de bonnes écoles au pays, etc. On faisait partie vraiment de la classe aisée à Madagascar. Et on était relativement gâtés, etc. Donc bon voilà, quand j'étais petite, je pourrais pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse ou autre, juste qu'ils étaient absents en fait. Ils étaient absents physiquement, ils habitaient en Suisse et ils étaient très souvent absents, donc on était que nous à la maison à Madagascar avec des dames qui s'occupaient de nous. Enfin en Afrique ça se fait beaucoup, il y a des sortes de, enfin des femmes de ménage qui sont aussi nos nounous qui s'occupent de nous en fait. Donc ils étaient absents. Mais voilà, on se voyait pendant les vacances, etc. Et en fait, il n'y avait rien qui présageait qu'ils étaient particuliers, puisque qu'on était des enfants et on écoutait juste tout ce qu'ils nous disaient et on les croyait.
D'accord.
Mais en fait, il s'avère que quand ma grande sœur, donc ma cadette de 4 ans, est arrivée à l'adolescence, bon, elle a fait sa crise d'adolescence et c'est là, en fait, que moi, j'ai commencé à qu'on a commencé à voir qu'il y avait des comportements pas forcément sains de leur part. Par exemple, si ma grande sœur était en désaccord avec eux, donc comme j'ai dit, ils habitaient en Suisse. Hein. Donc par exemple, et donc ma mère était en Suisse et mon père faisait des allers-retours entre la Suisse et Madagascar. Et quand il revenait, il nous gâtait, il nous ramenait voilà des cadeaux, des biscuits, etc. Et j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une façon d'agir un peu spéciale quand un jour ma sœur s'était entre guillemets disputée avec ma mère, rien de grave, voilà, juste une adolescente qui fait sa petite crise, et quand mon père est revenu avec des cadeaux, il n'en avait que pour moi et pas pour ma sœur. Et j'ai demandé mais pourquoi est-ce qu'il y en a pas pour elle, et mon père m'a fait comprendre qu'elle avait eu un comportement inapproprié, que du coup elle ne méritait pas elle d'avoir des cadeaux. C'était une sorte de punition en fait. Et c'était souvent en fait des choses comme ça. Si on faisait pas ce qu'il voulait, on était entre guillemets punis par ce genre de petits gestes en fait, ce qui nous incitait à essayer, en tout cas moi, à faire un peu tout ce qu'il voulait tout le temps.
D'accord. Donc tes parents en fait vivaient en Suisse par rapport à leur travail, c'est ça?
Mais justement, pareil, là, en fait, ils nous ont raconté une histoire comme quoi ils auraient fui Madagascar à une époque où ils avaient des ennemis qui leur voulaient du mal et que du coup, ils ont dû se terrer en Suisse pour nous protéger, etc. C'est l'histoire qu'ils nous ont racontée pendant toute notre enfance. Mais en fait, on se rend compte petit à petit, là, avec ma sœur aînée, puisque bon, entre-temps, bon, je suis désolée, c'est un petit peu décousu, mais...
Non, il n'y a pas de problème, vas-y.
Mais en fait, cette sœur cadette en question, un jour, enfin finalement, elle s'est suicidée en 2007. Et du coup, comment dire ? Ben voilà, elle s'est suicidée. Et bon, après ça, je me suis retrouvée seule là-bas à Madagascar. Tout ce temps, mes parents continuaient de raconter leur version des fêtes. Et en fait, pour eux, ils sont un petit peu paranoïaques et bitomanes sur les bords. C'est-à-dire qu'ils se mettent en tête qu'ils ont des ennemis partout. Et en fait, ils nous ont vraiment fait vivre dans un, dans une idée comme quoi le monde était rempli d'ennemis et que eux, ils étaient toujours persécutés par des gens autour, qu'il ne fallait faire confiance à personne. Ils n'arrêtaient pas de se mettre des gens à dos et puis de fil en aiguille, tout le monde devenait des ennemis, même des gens qui étaient proches de la famille, ça devenait des ennemis du jour au lendemain. Et on savait pas pourquoi et ils nous racontaient toujours, ils avaient toujours une excuse. Et moi, je les croyais toujours. Jusqu'au jour où j'ai décidé de... Je suis désolée, en fait, c'est super décousu, je sais pas comment...
Vas-y, franchement, c'est la vie, hein.
Oui, c'est sûr, mais en fait, il y a tellement de choses, mais je vais essayer, voilà, de mettre les choses, en fait, en ordre, donc... Voilà, enfance relativement...
Raconte comme ça vient, c'est ce qui fait la beauté du podcast aussi. Hein. C'est,
c'est vrai.
Voilà, on raconte les choses, il n'y a aucun
ça
problème.
Ça marche.
Vas-y, no stress.
Ça marche. Donc du coup, en 2007, ma sœur cadette s'est donné la mort. Quand elle est morte, mes parents, ils étaient absents, en fait. Ils étaient vraiment absents. En fait, disons, la plupart du temps, ils étaient absents et ils étaient là de temps en temps pour, en termes de proportion. Et donc, on était un petit peu que toutes les deux. On était vraiment très proches, toutes les deux, tout le temps ensemble. Et il y a eu plein d'épisodes, en fait, avant ça, parce que le problème, c'est que ma sœur cadette en question, elle n'avait que 4 ans de plus que moi, hein, à l'époque. Comme mes parents n'étaient pas là, c'est elle, en fait, qui gérait financièrement, entre guillemets, la maison. C'est-à-dire qu'elle a pris les responsabilités de parents. C'est elle qui payait les employés, c'est elle qui se chargeait pour payer les courses, pour l'électricité, etc. Et moi, en fait, j'étais plus petite et je pense que je me rendais pas compte que c'était pas normal et que ça pouvait être énormément pesant pour elle.
Bien sûr.
Et parce que voilà, en fait, quand elle est morte, elle avait 17 ans et elle faisait ça déjà depuis toujours, en fait. Ouais. Donc, il l'avait parentifiée et c'est elle, enfin, grâce, entre guillemets, au fait que ce soit elle qui avait cette charge, j'étais protégée et j'avais l'impression relativement d'avoir une vie plus ou moins normale. Ce qui fait que je me suis rendue compte tard de tout ça.
Justement, par rapport à ta sœur, donc c'était la cadette, hein, c'est bien ça?
C'est ça.
Ok. Et est-ce que tu, mis à part en fait la version de tes parents, est-ce que toi tu as une idée de la raison pour laquelle justement elle a mis fin à ses jours?
Honnêtement, je sais qu'on ne saura vraiment jamais, mais elle était sensible, c'était une artiste, voilà, elle peignait, elle dessinait, c'était une vraie artiste de talent. Elle avait même gagné des concours de poésie, etc. Et je pense que voilà, c'est un peu les profils écorchés vifs, très sensibles, qui peuvent très vite être un peu dans les choses dramatiques. Il y avait une part de ça, mais honnêtement, je pense aussi avec le recul que la toxicité de mes parents n'y est pas pour rien, puisque très honnêtement, voilà, moi, même moi, j'ai pas forcément eu, c'était pas forcément simple pour moi aussi, et sans mentir, honnêtement, même si ça me fait mal de dire ça, ils me pourrissent quand même la vie, quoi. Donc, je pense pas que je suis la seule à le subir, et je pense qu'elle le vivait de cette manière-là aussi. Même si je dis pas du tout que c'est de leur faute, mais en tout cas, leur comportement n'a pas aidé. Et elle avait écrit sur sa main « trop fragile pour la vie ». Donc, je pense qu'elle avait peur. C'était l'année aussi où elle passait le bac et où on devait partir faire ses études supérieures en Europe. Et peut-être qu'elle a eu peur. Oui, et c'était une pression pour elle.
C'est sûr.
Et en fait, il y a eu un épisode justement où je me suis vraiment rendu compte que mes parents étaient super chelous. Donc, en fait, en terminale, ma sœur voulait se faire une spécialisation en littéraire. Mes parents ne voulaient pas, ils voulaient qu'elle fasse S scientifique, elle en avait les capacités intellectuelles. Donc elle a dit ok, elle est partie en S, sauf qu'elle était passionnée de littérature, elle était artiste, elle voulait faire ce qui lui plaisait. Et vu que nos parents n'étaient pas là, ben, en terminale, elle a décidé de changer de filière sans leur dire. À moi, elle me l'a dit, mais elle a dit « on ne dit pas ». Et j'ai dit « ok, j'ai gardé le secret ». Sauf que le jour où mon père a découvert ça, j'ai vu un visage complètement différent de mon père. Il avait toujours été calme, il avait un visage de quelqu'un qui était à l'écoute, compréhensif, etc. Mais en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était plus une manière de pouvoir nous dominer, nous manipuler, en fait. Et en fait, le jour où mon père l'a appris, il a été dans une colère noire et il voulait, en fait, la frapper. Et elle s'est enfermée dans sa chambre à clé et mon père tapait comme un gros psychopathe sur la porte pour l'obliger à ouvrir. Et je ne sais même pas ce qu'il voulait lui faire, mais en tout cas, ça m'a fait super peur parce que je ne l'avais jamais vu comme ça. Mmh. Et après cette histoire-là, ça va être très chelou ce que je vais dire, et jusqu'ici je ne comprends pas quel était l'intérêt, mais en gros il nous a obligés à dormir dans la même chambre que lui, donc on a dû mettre nos matelas dans la chambre d'un de mes parents, et là ma mère n'était pas là mais avec lui, et en fait tous les jours on devait dormir là. Et en fait, voilà, je sais pas c'était quoi son délire, mais en tout cas, en gros, c'était comme parce qu'il voulait nous contrôler, j'imagine, je sais pas, mais du coup, il nous a obligés à dormir là, toutes les deux, genre pour nous punir ou je sais pas quoi. Donc, elle d'avoir désobéi en changeant de filière sans lui dire, et puis moi, de ne pas lui avoir dit, et donc, du coup, d'être complice, j'en sais rien. Ouais. Et des trucs comme ça, en fait, qui sont un petit peu chelous, quoi.
Waouh, c'est assez, déjà, on commence, mais c'est assez intense.
Et on n'est pas fini.
Ouais, j'imagine. Donc, je pense que de toute façon, tu as plus ou moins répondu, mais est-ce qu'à un moment donné, tu as considéré que, en fait, ce que tu vivais au sein de ta famille, en fait, c'était la norme, quoi. En gros, toutes les familles, quand tu voyais les autres familles, est-ce que tu considérais que ta famille et les autres familles étaient du même moule, c'était la même chose, c'était se comportait de la même manière, ou tu sentais qu'il y avait quand même tu pressentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, quoi.
En fait, tout ce que je savais qui était différent, c'est que mes parents étaient absents, et souvent j'avais cette remarque, même à l'école, quand il fallait faire signer les carnets, là, de notes et tout ça, des fois j'avais même des professeurs qui disaient, quand je disais mes parents sont pas là, ils disaient mais c'est pas normal, mais nous ils nous avaient toujours dit que voilà, c'était pour nous protéger, que les ennemis sinon allaient leur faire du mal et qu'ils étaient obligés de pas être là, enfin ouais. Donc pour moi dans ma tête je me disais oui mais bon, c'est pour nous protéger, donc c'est pour ça qu'ils sont pas là. Et pendant des années j'ai cru ça. Et après, je parlais pas beaucoup, j'en ai jamais parlé, en fait, de ces épisodes avec mes amis, parce que j'ai beaucoup idéalisé mes parents pendant longtemps. Et je voulais pas gâcher l'image que je pouvais avoir d'eux en parlant, en fait. Donc, je leur ai toujours, en fait, trouvé des excuses. En gros, c'était ça. Je leur ai toujours trouvé des excuses.
D'accord. Et justement, qu'est-ce qui faisait que tu les idéalisais ?
Parce que en réalité, voilà, comme je disais tout à l'heure, ils nous ont jamais fait vraiment. Enfin, petite, voilà, on était gâtés. Honnêtement, on a vraiment été gâtés. C'est complexe parce que je dirais pas qu'ils m'aimaient pas, ils nous aimaient, je pense quand même, ils jouaient avec nous quand on était ensemble, des choses comme ça, donc et puis je les voyais un peu comme des héros, comme avec tout ce qu'ils nous racontaient, que voilà, en fait ils avaient vraiment tout ce storytelling comme quoi ils sont partis de rien et puis ils se sont battus pour nous offrir la meilleure éducation, pour pouvoir nous emmener dans le meilleur lycée, nous le payer le meilleur lycée pour avoir un bel avenir. Et en fait, j'avais cette admiration de par ce storytelling qui nous rabâchait un peu. Et cette notion un peu, qu'ils se sont sacrifiés pour nous. Et j'ai toujours eu cette idée que je leur devais tout. Et même du coup, quand ma sœur est décédée, Bah voilà, après ça, forcément, moi, j'étais pas en super forme. Et bah voilà, et en plus, j'ai eu 14 ans cette année-là, donc pareil, je rentrais dans l'adolescence aussi. Et à un moment donné, où j'avais un comportement qui était pas super, alors je faisais franchement rien de ouf, mais j'étais plus la petite fille sage qui faisait tout au doigt et à l'œil comme j'avais toujours été. Mmh. Et je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais un jour, mon père, dans le taxi pour aller prendre l'aéroport pour partir, m'avait fait une sorte de sermon en me demandant pourquoi est-ce que je faisais ça, qu'il comprenait pas, que c'était pas normal. Et en fait, enfin voilà, à aucun moment il ne s'est posé la question de se dire bah en fait je souffre et peut-être que je suis une enfant et que je sais pas, que je suis juste perdue et que du coup je fais n'importe quoi. Et en fait, il m'a juste fait culpabiliser. Mmh. Et depuis ce jour-là, en fait, moi, ma raison d'exister, c'était de me dire qu'il fallait que je rende mes parents heureux. Et en fait, depuis ça, j'ai eu l'impression qu'ils ont ignoré, en fait, moi, la souffrance que je pouvais avoir. À chaque fois qu'on parlait de cet épisode avec ma sœur, mmh. c'était toujours, mais tu sais, perdre une enfant, c'est horrible. Perdre une enfant, c'est affreux. Mais à aucun moment, en fait, on a reconnu, moi, que j'ai perdu ma sœur. Et ils ont se sont jamais intéressés, moi, à ma souffrance. Et ont considéré que c'était à moi, en fait, de d'être leur bonheur après ça. Et ils étaient toujours en train de dire « Oui, tu es tout ce qui nous reste. » voilà, maintenant il n'y a plus que toi, on en a déjà perdu une, mais moi en fait ça me mettait une pression en fait, parce que déjà que moi j'étais pas bien, et me mettre ça sur le dos en fait, c'était compliqué.
C'est sûr. Mais justement, lorsqu'il disait que en fait, il n'y avait que toi, mais t'avais aussi une autre sœur, une sœur aînée, enfin pourquoi en fait
Parce que j'imagine que ma sœur aînée, elle était déjà beaucoup plus grande et elle a déjà sa famille.
Ah oui.
Je sais pas. Et puis bon, moi j'étais encore malléable et donc peut-être. Enfin, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis ça à moi sur mon dos à moi. Peut-être parce que je suis la plus petite aussi. Mais il y avait vraiment ce truc très malsain entre, en fait, il laissait vraiment entendre que aujourd'hui il ne vivait que parce que moi j'étais encore là, des choses comme ça en fait. Okay. Et en fait, moi j'avais pas. C'est comme si j'avais pas le droit du coup d'aller mal en fait, mm-hmm. la façon dont je l'ai vécu. Mm-hmm. Et même ouais, il me protégeait pas. Mon père me disait clairement qu'il était. Enfin, il se confiait à moi alors que j'avais quand même 14 ans sur sa souffrance et tout. Et jamais, moi, on m'a interrogée, quoi, sur moi, ma souffrance. Alors que, je sais pas, c'est aux parents de le faire, je pense, quand même.
Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, il y a quand même y a vraiment une inversion des rôles, ça, c'est sûr et certain. Il y avait combien d'années d'écart entre ta grande sœur, enfin, l'aînée, et toi?
On a 14 ans d'écart.
D'accord, ok. Ah oui, donc elle était déjà, bien, bien grande, donc forcément. Forcément. Façon de parler, hein. Donc, pour eux, en gros, comme tu as dit, hein, comme, en fait, elle avait fait sa vie, il y avait que toi, comme, qui considérait encore comme enfant, et donc,
forcément. C'est ça.
Wow. D'accord. Ok, donc en gros, si je résume un peu, au niveau de la toxicité, c'était plus le fait qu'ils étaient absents émotionnellement, physiquement, enfin.
Oui, bah en fait, c'est ça, c'est que déjà ils étaient absents physiquement, ils étaient pas là avec nous. Donc, difficile de jouer son rôle de parent quand on est à 10 000 kilomètres.
C'est sûr.
Et ensuite, c'est en fait cette façon de mettre en priorité leur propre ressenti et de ne pas s'intéresser en fait à ce que moi je pouvais vivre et de ne pas m'avoir protégée en fait émotionnellement suite en fait au suicide de ma sœur. Comme je disais tout à l'heure, en fait, pour eux, ils se sont centrés que sur leur propre souffrance et n'ont jamais interrogé la mienne et se sont jamais demandé est-ce que moi j'en souffre et comment faire pour essayer de me faire évoluer de manière la plus saine possible. Mmh. Un exemple tout simple, j'ai moi-même à mes 14 ans demandé à consulter un psy.
Ah oui.
Ils ont refusé. Mon père m'a dit « Pourquoi tu veux voir un psy ? Tu peux parler avec moi. Mmh. » Et en fait, genre, il n'y a eu aucune volonté de faire en sorte que j'aille mieux. Il n'y a rien eu, pas de psy, pas de... À aucun moment, on me demandait comment j'allais, comment je me ressentais. Il n'y a jamais eu ça. Mais par contre, me dire tous les jours que j'étais tout ce qu'il leur restait, que si j'étais pas là, ils ne voyaient pas à quoi bon... Des choses comme ça qui me mettaient une pression monumentale. À 14 ans, en fait, on n'est pas censé avoir les épaules pour porter ça et ils m'ont forcé en fait à le porter inconsciemment.
Mais ouais, c'est ça. Mais ce qui est hallucinant, c'est que en fait, il y a une grosse part d'égoïsme. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont partis super loin pour se protéger eux, mais vous, alors je sais pas. Dans une famille normale, les parents normaux qui se préoccupent de leurs enfants, à partir du moment où eux, ils se sentent en danger, automatiquement les enfants aussi. Donc, toute la famille part, quoi. C'est pas on se sent en danger, donc on part et puis on vous laisse là. Mais si dans ce pays vous êtes en danger, naturellement les enfants aussi, ils sont encore plus vulnérables. Pourquoi vous les emmenez pas avec vous, quoi?
C'est pour ça que je pense qu'avec le recul, c'est du storytelling et qu'en réalité, honnêtement, j'ai l'impression que c'est des inconnus, en fait. Plus j'avance, plus je ne sais rien de la véracité de leur vie. Et je pense qu'ils nous ont plongés dans des mensonges pendant toute notre enfance et tous les jours avec ma sœur, on découvre de plus en plus de choses où on se rend compte qu'ils ne font que mentir depuis toujours et même cette histoire de nous protéger. Moi, j'y ai cru tout ce temps, mais comme tu dis, en fait, à quelle heure tu protèges les gens en les laissant dans le pays où des gens sont censés te vouloir du mal et toi, tu te tires au calme et tu laisses tes gosses là. Donc, soit c'est pas la vraie raison, et à mon avis, c'est pas la vraie raison parce que ça n'a aucun sens. Parce que s'ils sont pas là, on est encore plus, comme tu dis, vulnérables et on aurait pu nous attaquer, sais pas, moi. Mais je pense qu'ils étaient en Suisse juste pour sûrement faire leur business. Et puis, je sais même pas dans quoi ils trempent. Et à mon avis, il y a des trucs très, très bizarres qu'ils font. Et je veux même pas savoir ce que c'est. Sinon, ils auraient pas autant de raisons de mentir sur toute la ligne.
Et puis, la Suisse...
voilà. Oui, pourquoi la Suisse aussi? On sait que c'est réputé pour... c'est pas le pays le plus... Donc, je pense qu'ils trempaient dans des trucs. Alors... officiellement, et ça c'est vraiment vrai parce qu'on allait en vacances en Suisse, ils avaient des stands d'artisanat malgache. Donc ça c'était vrai, mais je pense qu'ils faisaient d'autres trucs aussi. Je sais pas si c'était un lien avec la politique ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ils faisaient des trucs et on saura jamais ce que c'était. Mais je doute fort que c'était pour nous protéger parce que comme tu dis, quand on veut protéger, on garde ses enfants près de soi. Et on confie pas à une gosse de 10 ans, la gestion d'une maison, quoi. Une grosse part aussi de mensonges et de choses qu'on ne saura jamais, c'est aussi assez spécial, quoi.
Oh, je pense qu'à un moment donné, tôt ou tard, il y a des choses qui vont sauter, quoi, qui vont te sauter aux yeux. Enfin, tu vas découvrir des choses, je pense, quoi. Parce qu'en plus, je suis pas inspecteur, je sais pas quoi, mais tu me dis que voilà, ta famille était super aisée, etc. Et puis on sait très bien que il y en a justement. Enfin après, tu sais, par rapport aux impôts, la Suisse, etc. Enfin, je sais pas, qu'il y a aussi un truc. Enfin, je sais pas.
Possiblement, franchement, je pense qu'il y a une histoire comme ça. Enfin, et après ça. Je pense qu'il y a un peu de la politique dans l'histoire aussi parce que en gros, Ce qu'ils nous disaient aussi, c'est qu'à une époque où, parce que avant ils vivaient à Mada, ils avaient leur société à Mada machin, et en fait c'est à l'année où un président qui a été dictateur à Madagascar pendant des années a pris le pouvoir, qu'ils, enfin dans leur histoire hein, c'est ça, qu'ils ont dû fuir en Suisse parce que cette personne leur voulait du mal. Donc c'était ça en fait l'histoire. Et il s'avère que ils sont revenus en 2009. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser aussi. Donc, ma sœur s'est suicidée en 2007. À aucun moment, ils se sont dit que c'est peut-être le moment de revenir et d'être avec moi. Mm-mm. Ils sont restés là-bas pendant, les deux, pendant 2 ans. Donc, moi, j'étais toute seule à Mada, dans ma maison. Bon, ils ont mis ma tante là, quand même, histoire que voilà, mais bon, super. Et en gros, j'étais toute seule 2 ans après le suicide de ma sœur, quoi. Pas de parents, même pas le droit de voir un psy. Et en fait, ils m'ont laissé comme ça.
Ok. Qu'est-ce que tu as fait pour combler, tant que, enfin, comme tu pouvais, ce vide émotionnel que tu subissais, quoi?
Je pense que j'ai eu la chance, malgré que eux nous rabâchaient que tout le monde était nos ennemis, qu'il fallait faire confiance à personne, nanana, j'ai eu la chance de savoir très très bien m'entourer, et je pense que mes amis ont joué vraiment un grand rôle, parce que voilà, j'avais vraiment beaucoup beaucoup d'amis, j'étais super bien entourée. Alors je ne me confiais pas. Enfin, je me confiais pas non plus énormément, mais voilà, juste d'avoir des amis et de se sentir amicalement aimé et une présence, ça m'a aidée. J'étais souvent chez eux, et puis j'avais des amis qui avaient des environnements très stables aussi, et donc ça faisait du bien, des gens un peu normaux. Juste avoir un semblant de normalité et de pas tout le temps être dans le chaos, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et puis aussi cette construction mentale que je me suis faite, c'est-à-dire que moi pareil, j'allais mal, mais finalement le fait qu'ils me mettaient un peu cette pression sur le dos de leur bonheur, ça m'a paradoxalement aidée à tenir, parce que en fait dans ma tête je me disais je peux pas flancher, parce que il faut que je rende mes parents heureux. Et donc je m'accrochais à ça parce que en fait c'est tout ce que j'avais. Et en vrai, de moi-même, j'avais pas spécialement, j'avais un peu perdu goût, quoi. Donc, en fait, je me suis raccrochée à quelque chose d'extérieur, qui était mes parents, en me disant, moi, je m'en fous, mais je peux pas leur faire ça, en fait. C'était un peu ça, le truc. Donc, Donc, ouais, je me suis accrochée à ça, et puis je pense que j'étais aussi un peu dans le déni. Par exemple, moi j'étais la seule à mettre toutes les photos de ma sœur partout dans ma chambre, faire comme si elle n'était pas vraiment partie. Et je me suis accrochée comme j'ai pu.
D'accord. Et par rapport à ta sœur aînée, est-ce que tu avais quand même un lien avec elle? Est-ce qu'elle, par rapport justement à ce drame que vous avez vécu, quelque part ça vous liait, même si vous aviez un écart d'âge important, ça restait quand même ta grande sœur. Est-ce qu'à un moment donné, elle s'est sentie quelque part responsable de toi, prendre de tes nouvelles, créer un lien plus étroit avec toi?
Oui, bien sûr, elle se sentait responsable de moi, elle a fait comme elle a pu. Après, elle habitait en France, moi là-bas, et elle a fait comme elle a pu, mais c'est, voilà, elle venait en plus d'avoir ses enfants, donc des jumeaux, elle avait plein de, des fois, on n'a même pas la force pour soi-même, donc, mais en tout cas, oui, elle a fait de son mieux, elle a fait de son mieux pour pouvoir m'aider aussi, et je parlais aussi de mes amis, mais ma sœur aussi, m'a beaucoup aidée dans ce drame-là. D'autant plus qu'après, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, par contre, c'est que mes parents, pendant toute notre enfance, nous disaient du mal d'elle aussi. Parce que, pareil, elle s'était rebellée. Et en fait, j'imagine pour éteindre la brèche, pour pas que nous on ait l'idée un jour de faire la même chose, bah il nous la faisait passer pour voilà, pour une mauvaise personne, pour il nous disait que oui, qu'elle traînait avec leurs ennemis, qu'elle fricotait avec les gens qui ont essayé de les assassiner, des choses comme ça, la faire passer pour la méchante en fait. Et bah moi comme mes bah en fait je entre guillemets c'est enfin je les croyais plus ou moins dans le sens où enfin aucun moment je croyais juste qu'il me disait et elle avait pas toujours possibilité de donner sa version. Donc ça compliquait aussi un petit peu les choses et c'est pareil, on s'est rendu compte récemment que tout le temps ils passaient leur temps à nous monter l'une contre l'autre.
Ah oui, bah oui.
Les unes contre les autres, donc d'abord moi et ma sœur cadette contre elle, et puis après quand il n'y avait plus ma sœur cadette, ben c'était l'une contre l'autre. Et moi en fait j'étais un peu l'enfant choyé bizarrement, même si au final je souffrais quand même, et elle c'était l'enfant, je sais pas, le mouton noir quoi. Et ils nous montaient vraiment l'une contre l'autre, genre à l'époque, parce que après, bon, voilà, mes parents sont revenus en 2009. Comme par hasard, quand la Suisse est rentrée dans la zone Schengen et que, du coup, pour avoir le visa pour vivre là-bas, il fallait passer par la zone Schengen, donc la France, donc plus compliqué. Parce que je pense qu'en fait, ils devaient avoir des contacts en Suisse qui leur facilitaient les choses, mais après, c'était plus le cas et donc ils ont dû rentrer. En faisant genre que c'était pour moi, alors que, bizarrement, ça concorde avec le truc. Enfin, bref. Ouais. Donc du coup après bon j'ai dû passer mon bac machin et il fallait que j'aille étudier en France et là ils nous ont fait un truc en fait ils m'ont fait partir en France chez ma sœur en lui faisant croire que ils allaient s'occuper financièrement et en fait pendant 2 ans c'est ma sœur qui a dû se taper tous mes frais. Et en fait c'est la façon dont ils agissent, ils mettent sous le fait accompli et après c'est jamais leur faute en fait. Et ça a toujours été comme ça. C'est jamais leur faute. C'est la faute d'autrui, c'est la faute des autres, mais c'est jamais leur faute, jamais de remise en question. Mmh. Et à partir de là, en fait, depuis que je suis arrivée en France, c'est là qu'ils commençaient à dire que ma sœur leur volait de l'argent, leur demandait de l'argent, des choses comme ça. Et en fait, moi, pendant tout ce temps, bah, je les croyais. Mmh. Et c'est récemment, mais vraiment tout récemment, que quand j'ai compris qu'ils étaient trop bizarres, que j'ai commencé à tout balancer à ma sœur et qu'elle m'a dit mais jamais de la vie. Et en fait c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait on était dans un tissu de mensonges mais depuis toujours, et on sait pas jusqu'où ça va quoi. On sait pas jusqu'où ça va, mais en fait ils sont prêts à inventer des choses pour nous monter l'une contre l'autre. Et à inventer, me faire passer ma sœur pour une voleuse auprès de moi. Je sais même pas quel est l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'il, enfin, je comprends pas trop l'utilité. Même ma mère qui dit tout le temps du mal de ma sœur dans son dos. Enfin, je sais pas quel est l'objectif, quoi. Je comprends pas.
Ok. Bah déjà, on a eu une idée de l'enfance que tu as vécue avec tes parents, sans tes parents.
Ouais.
Pour le coup, c'est sûr. Tu as commencé justement à parler de ta vie d'adulte, de jeune adulte, quand tu es arrivée en métropole pour tes études. Et justement, comment tu as vécu les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois et la première année en fait? En dehors de Madagascar, de ce vide en fait.
Donc ma sœur habitait en Île-de-France et moi à Caen. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, la prépa était à Caen et j'étais en internat. Donc, en fait, j'étais en internat, mais je revenais le week-end et les vacances chez ma sœur.
D'accord.
C'était compliqué un petit peu parce que. Mes parents m'ont mis là sous le fait accompli et en fait je me mets à sa place, ils doivent prendre en charge une meuf de 18 ans qui fait ses études supérieures alors que c'était pas prévu du tout, donc forcément c'est compliqué. Et d'un autre côté, ben ma sœur, elle m'a pas abandonnée. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour pendant ces 2 ans-là pour elle a payé quoi. Elle a fait comme elle a pu. Mais voilà, du coup, c'était un peu compliqué parce que ben c'était une situation qui personne ne voulait, mais qu'on n'avait pas le choix. Et du coup, ben elle, ça la mettait dans une situation compliquée vis-à-vis de sa famille, machin. Moi aussi, bah, je me sentais mal de la mettre dans cette situation. Donc, c'était pas évident, forcément, quoi.
C'est sûr. En fait, elle a joué le rôle de parent à son tour, quoi.
Exactement. Elle a joué le rôle de parent. Et franchement, elle s'est vraiment occupée. Enfin, elle a tout fait, quoi. Elle a même... Enfin, à l'encontre... Enfin, voilà, elle a risqué, entre guillemets... sa famille pour moi pour pouvoir s'occuper de moi quoi. Et ça pareil, mes parents n'ont jamais été ils ont toujours été ingrats par rapport à ça parce que pour eux c'est normal, pour eux c'est mais non, c'est pas normal. Et puis juste au moins dire la vérité, mais eux pareil, toujours en soum-soum, jamais mettre les choses sur fait accompli. Et en fait pendant toute cette période, alors que elle faisait tout pour s'occuper de moi, c'est pendant cette période aussi que eux me monter contre elle, donc le truc trop chelou quoi, mais en oui. disant que, enfin voilà, et par exemple il me disait que elle leur demandait des fois des sous, alors qu'en vrai j'ai appris que c'était totalement le contraire. Une histoire rocambolesque comme quoi ma mère lui aurait donné 3 000 euros pour mettre sur son compte à elle, à ma sœur, et qu'en fait gros ma mère lui demandait de temps en temps de lui donner 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Déjà pourquoi tu demandes à ta fille de mettre l'argent, tu sais pas, bon bref, on veut même pas savoir. Et cette histoire-là est à soi-disant que à la fin ma mère avait bien fait les comptes et que ma sœur ne lui aurait pas tout rendu. Donc moi ma mère m'a raconté cette histoire-là et c'est récemment aussi pareil que j'ai parlé de ça à ma sœur et ma sœur m'a dit qu'il n'y a jamais eu de compte, qu'elle a jamais voulu ouvrir de compte pour eux parce que justement elle n'avait pas confiance et que cette histoire n'a jamais existé. Mais je me dis, mais pourquoi? Pourquoi me dire ça en fait? Ouais, ça n'a aucun sens.
Mais c'est clair. Mais en plus, ce qui est étonnant, c'est, enfin, tu m'as dit que tes parents étaient aisés. Donc pourquoi en fait? En fait, ils n'ont pas pris en charge à distance. Enfin, t'envoyais de l'argent. Enfin,
c'est très bonne question.
À l'époque.
Ben justement, c'est là qu'il y a aussi un gros flou et que je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. C'est que il y a eu en fait. Donc moi, j'ai fait mes 2 ans de prépa et à un moment donné, il fallait donc m'inscrire en troisième année, quoi. Sauf que moi, j'avais pas eu mon diplôme, j'avais pas reçu de mon lycée mon attestation de baccalauréat. Et donc, je demande à mes parents, est-ce que vous pouvez vous en occuper? J'en ai besoin pour mes études supérieures. En gros, je peux pas m'inscrire en études supérieures sans ça. Pendant des mois, ils ont traîné la patte, voilà, soit ils étaient en silence radio, soit ils disaient on s'en occupe, mais en fait ils s'en occupent pas, et à un moment donné, toutes les inscriptions allaient être fermées, et moi en fait, il fallait que je sois inscrite parce que j'avais besoin de ça pour avoir un titre de séjour étudiant à renouveler, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté moi-même le lycée dans lequel j'étais, et j'ai découvert que ça faisait 2 ans que mes parents n'avaient pas payé les écolages, et que du coup, mon lycée refusait de me donner mon attestation s'il ne payait pas. Et ça, ils ne nous l'avaient jamais dit, en fait. Et donc, en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'ils étaient broke, quoi. Ils n'avaient plus de sous et ils ne nous l'ont jamais dit. Et ça expliquait du coup pas mal de choses. Et quand j'ai raconté à mon père que j'avais découvert ça, au lieu de s'excuser et de... Enfin, je n'en sais rien. Il m'a engueulé comme un gros psychopathe en disant qu'il m'avait interdit d'appeler le lycée, qu'il a dit qu'il allait s'en occuper. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'il préférait garder une image plutôt que de préserver mon avenir, parce que je lui ai quand même expliqué que si j'ai pas ça, je ne peux pas m'inscrire en études supérieures.
Mais c'est ça.
Et en fait, il aurait préféré que je ne sache pas ça plutôt que de pouvoir continuer mes études, en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi son problème? Et au final, j'ai réussi à me débrouiller. J'ai contacté le rectorat de la Réunion en envoyant une lettre en disant que l'école, le lycée voulait pas me donner mon truc. Le rectorat a dû écrire à mon lycée pour les obliger à m'envoyer le truc. Enfin, bref. Parce que j'avais même demandé au lycée de me... de me porter garante et que de faire un que j'allais les payer petit à petit en faisant un job étudiant parce qu'il me le fallait vraiment ce truc quoi. Mais oui. Et ils ont pas voulu et mes parents ne trouvaient pas de solution et bon bref, heureusement ce truc s'est réglé mais pareil là je me suis rendu compte que finalement ils avaient pas d'argent en fait. Ouais. Et c'est là que c'est là que les choses ont commencé. Enfin moi j'étais étudiante donc ils m'épargnaient encore. Parce que moi-même je galérais et je devais me débrouiller parce que après les 2 ans en prépa, j'ai plus voulu que ma sœur soit obligée de s'occuper de moi donc j'ai décidé de trouver des solutions de par moi-même. Et donc j'ai pris mon indépendance et mes parents ne m'ont jamais aidée quoi. Et ils ne m'ont jamais aidée. Et dès que j'ai commencé à travailler, bah là, bizarrement, ils ont commencé à se rappeler de mon existence et de me demander de l'argent.
Bah voilà.
Voilà. Donc bon, et c'est là que les choses ont commencé. Donc un coup, c'était pour parce que ils mentaient en fait parce qu'ils avaient toujours de bonnes raisons. Et en fait, ils n'hésitent pas à te dire des choses du style « Oui, c'est une question de vie ou de mort. Il faut vraiment qu'on tu nous envoies ça. » Et en fait, bah du coup, dans le doute, à chaque fois, on se laissait avoir avec ma sœur, quoi. Et on envoyait. On envoyait tout le temps. Et puis, bon, bah, au bout d'un moment, dernièrement, je suis allée à Mada. Parce que pour une énième fois, encore, ils ont sorti l'histoire.
Justement, avant de basculer dans le prison, je viens de me rappeler, en fait, tu as dit que tes parents étaient revenus à Madagascar. Donc, quand ils sont revenus, en 2009, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Donc, entre-temps, bah, quand ils sont revenus, tu as dû vivre avec eux, forcément.
Oui.
Donc, oui, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé alors que tu n'avais jamais vécu avec eux. Comment cette cohabitation, j'ai envie de dire, c'est
passé ? Ouais.
Est-ce que c'est important
Alors, ça s'est passé que... Comment dire ? Alors, je dirais pas non plus que ça s'est mal passé, parce qu'en fait, comme je faisais tout ce qu'ils voulaient, au final, ça se passait relativement bien, quoi. Parce que tant que je les fais ce que je veux en mode esclave, ils me traitaient correctement. Mais j'étais pas heureuse pour autant, et... En fait, je me suis rendu compte parce que mon père encore, lui, de temps en temps, il venait, mais en fait, j'avais jamais vraiment vécu avec ma mère.
Oui, c'est sûr.
Et elle est vraiment, c'est particulier de vivre avec elle, quoi.
C'est-à-dire?
Elle est, c'est-à-dire que c'est le genre de personne qui va t'appeler en criant Alice dans la maison pour aller chercher la télécommande qui est au pied du lit, quoi.
Mais c'est ça.
Donc, en fait, c'est mignon 2 minutes. Et en fait, c'était tout le temps ça. Donc, pour elle, j'étais son esclave et voilà, quoi. Et en fait, c'était tout le temps ça. Mais bon, moi, comme je le faisais, ça se passait relativement bien, quoi. Mais il y a juste des petites choses où, des fois, y a eu des petits accrochages, par exemple. D'autres choses aussi, c'est qu'elle voulait contrôler aussi mon apparence pas mal. Genre, tous les dimanches, elle me lissait les cheveux. Pour aller au lycée, des choses comme ça, mais moi je le voyais pas comme quelque chose de mauvais parce que en fait voilà, elle me disait que enfin elle me disait pas des choses négatives en fait. Moi j'étais l'enfant choyé, l'enfant machin, donc je me rendais pas forcément compte que c'était une sorte de contrôle sur moi en fait. Donc mais voilà, juste à part que elle allait me faire chercher les trucs et que j'étais un peu son esclave et qu'en gros je devais faire tout ce qu'elle voulait. Ça s'est passé relativement bien parce que j'ai pas eu de crise d'adolescence moi. J'ai jamais fait de crise d'adolescence, j'ai été l'enfant parfaite. Donc ils avaient rien à me reprocher entre guillemets.
Ouais.
Donc voilà, okay. Ça s'est relativement bien passé.
D'accord. Et justement, normalement, quand on grandit, après on va basculer vraiment dans le présent, mais on fait les choses chronologiquement.
Oui.
Quand on arrive à l'âge adulte, normalement notre identité, elle commence à bien s'affirmer. Est-ce que tu peux me décrire justement la jeune femme que tu étais à 18-20 ans, déjà tu étais étudiante, mis à part ta vie d'étudiante, est-ce que tu avais le sentiment d'être toi ?
Franchement, pas du tout. J'étais... En fait, j'avais une relation assez fusionnelle quand même avec mes parents, mais fusionnelle un peu glauque finalement quand j'ai du recul. Parce que, comme je te disais, en fait, je dans ma tête, je vivais pour eux, en fait. Et c'est comme si j'avais pas d'autre, entre guillemets, raison d'exister que de satisfaire et de faire le bonheur de mes parents. Et du coup, bah, quand j'avais 18 ans, c'était ça, en fait. Moi, je me disais, bon, bah, moi, je vais réussir ma vie, réussir mes études, comme ça, ils seront fiers. Mon idée, c'était de les rendre fiers. C'était mon objectif dans la vie. J'avais pas d'autre objectif que rendre mes parents fiers, en fait.
Ok. Et justement, dans toute cette démarche, en fait, de rendre fiers tes parents, lorsque tu réussissais, est-ce que tu arrivais à être fière de toi? Ou c'était plus, ok, c'est cool, j'ai rendu fière mes parents, mais moi, je ne suis pas spécialement fière. C'était quoi, en fait?
Moi, ouais, franchement, moi, je m'en foutais. Hein. C'était juste que quand ils me disaient oh, bravo, ma chérie, enfin, je me nourrissais, entre guillemets, de manière très malsaine de leurs encouragements. Parce que, comme je t'ai dit, moi, ils m'ont toujours. Moi, en fait, j'ai jamais eu des paroles mauvaises. Hein. Ils ont toujours dit oh, tu es le pilier de la famille. Tu es ouais des choses comme ça, tu es vraiment courageuse, oh ma fille, quelle résilience, enfin j'avais que ce genre de compliments en fait, et du coup bah moi ça m'encourageait encore plus à m'accrocher dans les choses en vrai, et enfin en soi c'est bien en fait, c'est ils m'encourageaient, mais c'était cette façon un peu de me mettre dans une position je sais pas comment dire, je me sentais pas le droit de flancher et juste d'être vulnérable en fait, et je me nourrissais en fait de tous leurs compliments entre guillemets quoi.
Ouais, mais en fait tu étais comme le rock de la famille quoi.
C'est ça en fait, ils ont voulu me faire me mettre cette position là alors que à l'intérieur, je souffrais vraiment beaucoup, quoi. Énormément, quoi. Et ils se sont jamais intéressés à ça.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu, justement, est-ce que c'est le fait que tu te sentais, enfin, les souffrances que tu vivais, est-ce que, en fait, tu les laissais paraître dans certaines, je sais pas, au boulot, enfin, est-ce qu'il y avait des, tu laissais paraître tes failles à un moment donné de ta vie où c'était vraiment, c'était comme poker face, enfin, tu laissais rien paraître.
Bah en fait, en prépa, je pleurais pratiquement tous les soirs, mais bon. Après, le matin, je me levais, j'allais en cours quand même. Après, j'ai fait de l'alternance et c'est vrai que j'avais assez souvent des arrêts maladie quand même.
Ah oui.
Parce que, en fait, des fois, j'arrivais pas à me lever vraiment. Enfin, je sais pas si c'était de la dépression ou quoi, mais il y avait des matins où j'arrivais pas à me lever. Vraiment. Genre, j'arrivais pas. Et du coup, je me mettais en arrêt, mais. En fait, je faisais comme si... Et d'un autre côté, je vivais relativement normalement. Enfin, je partais quand même en soirée. Donc, c'était un peu chelou, quoi. Genre, c'était un peu en entre-deux où j'avais une vie normale un peu d'étudiante qui avait pris son indépendance. Et puis, d'un côté, j'avais cette souffrance-là qui était là. Et puis, je me suis rendu compte quand je partais en soirée que je buvais beaucoup quand même. Je pense que je buvais pour oublier un peu. Sauf que moi, je le voyais comme, voilà, on est en soirée, on s'amuse. Mais c'était des fois pas très sain. Et Et du coup, bah, j'avais vraiment cette image de la fille toujours enjouée, résiliente. Tout le monde, même mes amis, me disent, tu sais, t'es la personne la plus courageuse que je connaisse. Mmh. Et puis, bon, bah, moi, en fait, ce personnage-là me convenait bien et je me suis un peu aussi bien attachée à ce personnage-là. Donc, finalement, je souffrais plutôt en silence, en vrai. La plupart du temps.
Ouais. Mais justement, quand tu parles de souffrance, est-ce que tu peux, enfin, c'était quel genre de souffrance? Est-ce que tu peux mettre des mots dessus?
Ben, c'était l'impression d'avoir un poids immense en fait sur les épaules et que je serais jamais libre, entre guillemets, parce que en fait, au-delà de tout ça, mes parents étaient tout le temps, enfin, dans un de tes podcasts, tu parlais des différents types de parents toxiques et moi, en fait, ils ont déjà le parent mythomane. Donc qui va raconter des exploits que j'ai fait alors que c'est pas vrai du tout. Et aussi le parent créancier, donc leur doit tout, voilà. Et puis aussi le fait, cette espèce de truc où en fait il veut décider pour moi de ce que je vais faire. Et eux, en fait, leur délire c'était que il faut absolument que je fasse quelque chose pour Madagascar, que je rentre pour développer le pays, pour...
Carrément.
Ouais, voilà, et j'avais une vraie responsabilité parce que je suis une descendante de... tu sais, au bled, t'as des trucs comme ça où t'as des gens qui sont un peu des chefs de clan ou je sais pas quoi, et on est descendant de ça, et que du coup, j'avais une responsabilité vis-à-vis du clan, alors que c'est des gens que j'ai jamais vus de ma life. Moi, je les ai peut-être vus une fois dans ma life, ces gens-là, mais en gros, je dois... je portais la responsabilité voilà, donc en gros moi je devais développer Madagascar alors que j'étais étudiante et que
ouais, je galérais carrément.
Bouffer des pâtes, tu sais, mais par contre je vais développer le pays, bah ouais, ok
bien, mais et déjà, eux ils font quoi en attendant là?
Bah eux, à part demander de la thune à ma sœur pour faire je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils font, donc
c'est leur donc, manière de développer le...
Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est leur manière à eux, ouais. Demander de la thune à la sœur. Et en plus, d'inviter 50 000 personnes à la maison, parce que ça c'est un autre truc. Ils étaient là à faire genre qu'ils n'ont pas d'argent, mais par contre, sur Facebook, ça fanfaronne. Tu les vois avec 50 000 personnes qu'ils invitent à la maison. S'il te plaît, à la fête nationale française, ils font des gâteaux en forme de la France. Et ils se prennent en photo avec. T'es là genre, mais t'as rien d'autre à foutre de ton argent que de faire des gâteaux pour la fête nationale française, en fait. Et après, tu dis que tu nous demandes de l'argent, en fait, pour faire ça.
Ouais.
Enfin, tu vois, genre, ils sont même pas dans le besoin, en fait.
Ouais.
Et donc, voilà, il y avait cette souffrance-là de me dire que oui, j'ai cette pression, je dois développer le pays, mais ça veut dire que déjà, moi, je dois m'en sortir dans la vie, comment je vais faire. Et puis, eux, s'ils sont tout le temps là à me demander de l'argent, comment je vais faire, parce qu'il faut du coup que j'en gagne beaucoup.
Mais oui.
Et tu sais, je me disais même, mais un jour, si j'ai des enfants, comment je vais faire? Parce que je dois aussi m'occuper de mes enfants, mais aussi de eux. Et puis moi aussi, j'aimerais être heureuse, j'aimerais faire ça, mais du coup, ça ne leur conviendrait pas. Comment je vais faire? Et j'avais ça en suspens tout le temps, en arrière-plan.
Ben ouais. Ok, je comprends mieux. Alors... Tu as pris ton indépendance, tu as pu travailler. Est-ce que justement, à partir du moment où tu as commencé à être un peu plus libre financièrement, est-ce que tu as éprouvé à nouveau le besoin de consulter un professionnel pour justement guérir de tous ces traumatismes?
Alors j'ai essayé plusieurs fois, mais ça a vraiment pas été fructueux parce que. Déjà, je pense que les professionnels, peut-être, qui viennent d'Europe, il y a des choses, il y a des spécificités de ce qu'on vit en Afrique, des mentalités africaines, peut-être qu'ils n'ont pas, et des fois, je pense que c'est compliqué, en fait, pour eux de m'aider s'il y a des choses qui n'ont pas conscience de la complexité.
D'accord. Donc, t'as plus le sentiment que c'était, par rapport aux différences culturelles, c'est ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, ou il y avait d'autres choses on arrête.
Ouais, il y avait ça. Et puis même à l'époque, j'avais pas forcément beaucoup de sous, donc ça coûte quand même cher aussi.
Bien sûr.
Et puis, en fait, je pense que je me mentais aussi un peu quelque part en me disant que en vrai, parce que moi, à l'époque, cette époque, tout ce temps-là où j'avais pris mon indépendance, je savais qu'ils étaient, que je me sentais mal un peu par rapport à eux, genre. Quand ma mère débarquait, je faisais des crises d'angoisse. Je me sentais mal par rapport à eux, mais je me disais pas qu'ils étaient mauvais ou toxiques, quoi. Donc, je savais que je me sentais mal, mais je me suis plus réfugiée peut-être dans les vidéos YouTube, dans les livres pour m'aider que de vraiment voir un psy. Et voilà.
D'accord. Justement, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, justement, ces livres, ces vidéos YouTube et tout?
Franchement, oui, je pense que ça m'a aidé déjà apprendre à me connaître. Apprendre à me connaître et du coup d'avoir des clés en fait pour m'analyser moi-même, analyser mes propres comportements, avoir conscience en fait de certaines choses que je faisais qui étaient pas rationnelles ou autres, ça m'a aidé en fait toute cette démarche un peu de développement personnel, de philosophie, de m'intéresser à la psychologie, ça m'a vraiment aidé.
D'accord. Bon, ça c'est super. Et justement, quels sont les changements que tu as pu constater ?
C'est que petit à petit, en fait, je pense que tout ce travail-là m'a fait que petit à petit, j'ai finalement pu mettre un mot sur ce que je vivais par rapport à eux. Mmh. Et l'apothéose, on va dire, de ça, c'est, je pense, quand j'ai découvert ton podcast. Et c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment très récent en ce qui me concerne, en fait, cette prise de conscience. Et en fait, à force de cheminer, de faire des recherches sur certaines choses, machin, en fait, j'ai fini par, de fil en aiguille et aussi par le hasard des choses par rapport à Inès aussi, par découvrir en fait ce podcast et par le saigner parce que j'ai écouté tout. et du coup, ça m'a conduit là. Tout ce cheminement m'a conduit là, aujourd'hui aussi à tout ce que je raconte aujourd'hui avec toi. Ça m'a apporté de me libérer, enfin d'être sur le chemin en tout cas, je pense, de la libération.
Ok, c'est super. Justement, concernant la libération, récemment, tu t'es rendue à Madagascar pour des vacances.
Oui.
Et dans un de nos échanges sur Instagram, tu m'as dit que tu avais tenté de confronter tes parents, mais qu'au final, ça ne s'était pas super bien passé. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu les confronter et qu'est-ce qui n'a pas marché ?
Alors, j'ai voulu les confronter parce que ils sont allés beaucoup trop loin, en fait. Avant de partir, pour la énième fois, ils nous ont fait peur, question de vie ou de mort, qu'ils avaient besoin d'argent. Et donc là, il leur fallait 200 euros. Par semaine, par fille. Donc, ça veut dire 400 euros par... 200 euros par semaine ou par mois ? Non, par... c'est ça, par semaine. Donc, 200 euros par semaine par fille.
Ouais.
Donc, en gros, ils nous balançaient qu'il leur fallait ça pour soigner mon père. Mais sans aucun avis médical, sans avoir consulté un docteur, sans avoir fait aucune analyse. Donc, en gros, ça sort de nulle part. Et en fait, j'aurais dit je veux bien au bout d'un moment, mais il va peut-être falloir quand même un petit peu donner des éléments plus concrets pour que nous on lâche une telle somme, quoi.
C'est ça.
Parce que bon. Et donc ça, c'était le contexte de quand je suis partie, sachant que j'y suis allée aussi avec mon compagnon pour la première fois, pour la première rencontre.
Oula.
Il
va falloir que tu nous racontes ça.
Il y a de quoi raconter, je crois. Donc ça, et en plus on y allait avec aussi un couple d'amis d'enfance à moi et leur bébé. Et le garçon du couple, en fait, c'est un malgache aussi, et dont nos parents se connaissent.
D'accord. Okay.
Donc, déjà, ça a fait tout un scandale que j'aille avec lui parce que, bon, mes parents n'aiment pas ses parents. Apparemment, c'est leurs ennemis. Oh, sa mère est jalouse de ma mère pour des raisons qu'on ne connaît pas. Son père, à mon ami en question, aurait volé l'entreprise de mon père à l'époque. Enfin, bref. Donc, déjà, ils ne voulaient pas qu'on aille avec eux. Et ils ont tout fait déjà avant le départ pour me dissuader de partir en vacances avec eux. Mais moi, j'ai tenu tête et j'ai dit non. Mais en fait, leur objectif, c'était… En fait, ils ne voulaient pas que j'aille avec eux en vacances. Ils voulaient que je reste que avec eux, avec mes parents. Donc, du coup, on part tous ensemble. Donc, déjà, on arrive, ils ne viennent pas me chercher. Okay. Donc, super. Ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas vus. Hein.
Ouais.
Et c'était première fois rencontre avec leur beau-fils. Hein. Bon. Ils viennent pas nous chercher, ok. Donc on finit par se débrouiller pour rentrer. On arrive, ma mère nous accueille, mais mon père n'est pas descendu. Et c'est là que leur cinéma a commencé. Donc en gros, ma mère m'explique que mon père est malade, qu'il ne peut même pas marcher, tout ça machin. Donc on monte. On a 2 étages à la maison. On monte, ils sont donc eux au 2e étage tout en haut de la villa, parce que c'est une villa où on habitait, une grande villa. Mmh. Et donc là, mon père allongé dans le lit en mode mourant, quoi. Genre, donc il est là, donc voilà. Donc première rencontre avec le beau-fils, bonjour, enchanté. Et là, il commence à nous raconter leur storytelling, que oui, ça fait une semaine que papa ne marche plus, on lui demande, mais t'as mal où? Un coup, c'est le genou. On lui demande, quel genou? Des fois le gauche, des fois le droit. Bon, d'accord. Un coup, c'est les reins. Donc, et en fait, on lui parle, ça pouvait durer 30 minutes, mais tu ne savais toujours pas au final de quoi il souffrait exactement. Mmh. Et surtout, je veux dire, si le mec, il est alité et qu'il peut pas marcher, t'attends en fait un mois que nous on vienne pour faire quelque chose. Enfin, je veux dire, des gens normaux, ils seraient déjà partis voir le médecin.
C'est ça.
Je veux dire, vous êtes des adultes responsables. Pourquoi est-ce que vous faites tout ce cinéma-là, aller voir le médecin comme des gens normaux en fait? Donc voilà, donc là ils nous font ça. Le lendemain, en fait, c'est tellement lunaire que franchement. Enfin bref, j'ai quand même raconté. Donc le lendemain, donc première rencontre, hein, la veille avec le beau-fils. Le lendemain, moi en fait, pour pouvoir, je me dis, je veux avoir l'avis d'un vrai médecin. Parce que là, ils vont essayer de nous gratter plein de thunes. Je veux avoir l'avis d'un vrai médecin parce que sinon, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent pour demander de l'argent.
C'est
sûr. Et donc là, en fait, mon père, donc soi-disant qu'il ne pouvait pas marcher, nous dit à mon compagnon et moi de l'aider à le porter. Et en fait, on sait, ça se voit quand quelqu'un fait semblant de pas pouvoir marcher. C'est je veux dire, faut pas non plus. Enfin voilà. Et donc en fait, pendant tout le truc, on a dû le faire semblant de le porter parce qu'il faisait semblant de pas pouvoir marcher. Et ma mère, qui pour en rajouter une couche, qui prend une chaise et qui pose la chaise tous les 10 mètres en mode oui, non, mais faut qu'il se repose. Parce qu'il est... Non, mais je sais, c'est lunaire, hein, mais je te jure que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, tous les 10 mètres, elle met la chaise en disant « faut qu'il se repose, donc il s'assoit ». Et après, on dit « bon, allez, on y reva, blablabla ». Bref, voilà. Donc, ils nous font ce cinéma-là. Donc, mon compagnon qui venait de les rencontrer doit se taper de les emmener chez le médecin. Et donc, au final, chez le médecin, moi, j'assiste quand même au truc. Mmh. Et le médecin, mon père... Je pense qu'il s'attendait pas en fait à ce qu'on aille vraiment chez un médecin. Donc là, il se rend compte qu'il va falloir qu'il arrive à mytho aussi devant un médecin, quoi.
Ça va être dur.
Et donc là, le médecin lui pose des questions et bon bah il essaye de dire les trucs. Et à un moment donné, tu sais, le médecin il lui touche le genou et machin, soi-disant que mon père a mal au genou. Mais là, comme par hasard, tu sais, quand c'était avec nous, il faisait en criant comme s'il souffrait la mort. Et là, avec le médecin, il se comportait relativement normalement. Et donc, bah, du coup, c'est là que je me suis rendu compte, il y a un truc qui va pas. C'est chelou, quoi. Genre, pourquoi il fait semblant? Enfin, ou alors, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça a mis le doute dans ma tête. Donc au final, on fait ça, on rentre avec une prescription d'un antidouleur que mon père a refusé de prendre. Donc soi-disant, t'es en souffrance, mais tu veux pas prendre l'antidouleur, ok. Donc pareil, ça aussi, ça vous met la puce à l'oreille. Et bref, il se passe plein de trucs comme ça. Et sauf que nous, on était quelques jours donc dans la capitale. Et après, j'avais prévu de partir dans d'autres régions avec mes amis et mon compagnon. Donc on reste là quelques jours et rien que 2 jours en fait, ça m'a déjà suffi pour être en angoisse totale alors que ça faisait 5 ans que je les avais pas vus et c'est là que je me suis dit non, il y a un truc qui est pas normal. Mais j'étais pas encore prête à les confronter à ce moment-là. On avait eu des discussions, on avait parlé de plein de choses. Je leur ai juste dit que voilà, j'aimerais juste un peu plus de transparence de votre part, mais je restais très soft, très voilà, j'ai vraiment envie que ça se passe bien entre nous. Parlez-moi s'il y a quelque chose, je suis là pour vous écouter, je vous laisserai pas tomber, mais voilà, parlez-moi quoi. Et ils continuaient en fait à avec des histoires à dormir debout. Par rapport à ma sœur, ils se sont inventés un truc comme quoi c'est des gens qui l'ont poussée au suicide et ils ont accusé toute la terre entière. Et en fait, je me suis rendu compte que, limite, en fait, est-ce qu'ils avaient perdu la tête? Est-ce que eux-mêmes se sont est-ce qu'ils se sont convaincus de leurs propres mensonges? Je sais pas. Mais j'en étais arrivée à un point à me demander, est-ce qu'ils sont pas un peu devenus fous, quoi? Et donc, bref, ouais. Dis-moi.
Oui, donc, du coup, quand est-ce que tu les as confrontés au final?
Au final, en fait, donc on est parti en vacances et à un moment donné, on est revenu. Et j'avais dit au tout début qu'il y avait deux dames quand j'étais petite qui s'occupaient de nous à la maison, en même temps, elles faisaient tout à la maison, à manger, elles rangeaient le ménage, tout ça. Mais c'était aussi un peu des nénènes, quoi, des nounous. Et il y en a une qui était là depuis ma naissance et qui, en fait, s'est vraiment occupée de moi depuis que je suis bébé. Et on a un lien particulier, même si à la base, voilà, elle travaille à la maison, mais on a vraiment un lien. Je dirais, ça pourrait s'apparenter. En tout cas, voilà, elle a beaucoup, beaucoup d'affection pour moi. Elle m'aime vraiment un petit peu comme sa fille de cœur, on va dire. Et moi, un peu comme ma maman de cœur et qui a été plus présente physiquement que ma vraie maman. Et quand je suis rentrée, j'ai demandé, est-ce que papa va mieux? Et là, ma mère commence à me sortir. Oui, vous êtes grand maintenant. Donc, j'étais avec mon compagnon. Voilà, il faut que je t'annonce que... Martine, donc c'est celle que je considère un peu comme ma maman de cœur, empoisonne papa et du coup je vais la virer. Et en fait, ça c'est là que je l'ai que c'est en fait ça partait beaucoup trop loin pour moi parce que elle sait très bien que j'ai un vrai lien avec cette personne-là, que j'ai beaucoup d'affection pour elle et que jamais elle n'aurait fait ça et c'est là que je me suis énervée, j'ai dit mais t'as des preuves de ce que t'avances? Non, mais des gens m'ont dit que... Parce que bon, il y avait une autre personne qui était ma tante qui, du jour au lendemain, est devenue notre ennemie jurée. Et donc, en gros, cette tante... Et donc, ma mère me dit... des gens m'ont dit que cette tante-là est de passage et qu'elle aurait incité Martine à empoisonner papa. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Et là, j'ai dit, mais est-ce que tu as des preuves? Parce qu'en fait, il y a plein de mythos comme ça qu'elle faisait. Et à chaque fois, tu as des preuves? Non. Par exemple, on devait aller à un anniversaire aussi, dans le voyage avec mes amis d'enfance en question. L'une des choses qu'on devait faire, c'est d'aller à un anniversaire dans une ville qui s'appelle Majenga, chez une autre fille qui fêtait son anniversaire. Et ma mère m'a dit que les parents de cette fille-là étaient impliqués dans des affaires de meurtre et qu'il fallait pas que j'y aille. Alors que mes parents ne savent même pas qui est cette personne. En plus. Ils n'ont pas son nom, ils n'ont rien. Donc, ils arrivent à me dire qu'ils sont impliqués dans des meurtres alors qu'ils ne savent pas de qui on parle. Donc, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, non, mais là, je veux des preuves pour que tu affirmes des trucs comme ça. Elle m'a dit, non, mais je sais de source sûre, c'est qui tes sources? Et là, que ça commence à parler, voilà, on s'est, enfin, à mentir, à se perdre dans ses mensonges. Et c'est là, en fait, que je les ai confrontés et que j'ai vraiment pété un câble. Et que j'ai dit, vous êtes vraiment des mythomanes, vous êtes des paranoïaques, vous me pourrissez la vie depuis... Enfin non, j'ai pas dit que vous me pourrissez la vie, mais voilà, ça fait des années que votre comportement me fait souffrir, vous êtes toxique, vous êtes manipulateur, vous croyez que je me rends pas compte depuis toutes ces années de votre façon de manipuler, mais j'en ai très bien conscience, c'est juste que par respect pour vous, je ne vous ai jamais mis les choses en face, mais là, franchement, ça va trop loin, c'est beaucoup trop pour moi. Et du coup, je leur ai dit ça. Et après, je suis partie me coucher. On est resté là-dessus. Le lendemain, elle vient me voir comme une fleur, comme s'il ne s'était rien passé. Et elle a continué avec ses histoires pour me demander de l'argent par rapport à mon père parce qu'il était malade. Elle m'a dit, voilà, il ne faut pas qu'on se dispute. Papa est malade. La priorité, c'est de le soigner et tout machin. Et donc, je me suis un petit peu calmée. J'ai dit, bon, j'ai accepté de parler avec eux. Et là, ils ont commencé à essayer encore une fois de m'endormir en me racontant toutes leurs histoires, à dormir debout. Et à un moment donné, en fait, parce que en plus de ça, ils sont paranoïaques, ils pensent que les gens les surveillent sur Facebook et du coup, ils veulent pas tout dire, ils veulent passer que par le téléphone. Ils disent que des gens font en sorte que leur communication ne passe pas, qu'ils ne peuvent pas appeler le médecin et du coup, qu'il faut que ce soit moi qui appelle le médecin parce que leur téléphone ne marche pas. Enfin, tout un truc. Et en fait, au bout d'un moment, c'était trop, quoi. Et à un moment donné, je leur dis, mais est-ce que vous pouvez appeler le médecin? Parce que là, papa, s'il est si malade que ça, appelez-le. Je comprends pas que vous attendiez après moi pour le faire. Et là, elle me dit, oui, mais le téléphone ne marche pas, je sais pas quoi. Et j'ai dit, j'ai fait une réflexion en mode, oui, bien sûr, comme par hasard. Et là, en fait, elle me fait, écoute, on n'est pas fou, hein. Si tu crois qu'on est fou, t'as qu'à, et que tu ne veux pas nous aider, t'as qu'à partir. Et du coup, j'ai dit, ok, et je suis partie. Et j'ai appelé mes amis et je suis allée dormir chez eux et ça s'est fini comme ça, en fait.
D'accord.
Ça s'est fini comme ça.
Ils n'ont pas de sous pour appeler le médecin, mais ils ont des sous pour t'appeler et te demander de l'argent.
C'est ça. C'est exactement ça. Ils ont des sous pour m'appeler, me demander de l'argent. Ils ont des sous pour payer les employés parce qu'on a un gardien quand même, on a un jardinier. Donc, je sais pas, si mon père est malade, tu coupes tout pour pouvoir économiser. Ils ont une voiture, ils pourraient la vendre. Ils nous parlent de leur terrain, qu'ils ont plein de terrain, qu'ils vendent leur terrain. Mais non.
Ok, d'accord. Et au final, le médecin, qu'est-ce qu'il a trouvé ou pas trouvé?
C'est là aussi que c'est super bizarre. Parce que finalement, donc là, pareil, ils nous ont mis sur le fait accompli. Ils ont fait venir une ambulance. Ouais. Non, une fois que je suis partie, ils ont fait venir une ambulance pour aller chercher mon père pour le ramener chez le médecin. Et il s'avère, enfin le médecin nous dit que il y aurait vraiment quelque chose qu'on soupçonne. Donc apparemment que il y aurait potentiellement un cancer de la prostate. Sauf que pareil, on attend d'avoir les résultats, on attend d'avoir les résultats, etc. Donc au final, ils ont réussi leur coup parce que là, il est hospitalisé.
D'accord.
Ça coûte 2000 euros. On va payer quand même parce qu'en gros, ils nous ont mis sur le fait accompli en mode, bon, papa est depuis 2 jours à l'hôpital, il faut 650 euros de caution et il faut voir aussi pour les 10 jours d'hospitalisation avec la comptabilité. Donc en fait, on n'a pas le choix. Donc en fait, ils ont réussi leur coût, entre guillemets, finalement.
Mais ouais, mais après, moi, je ne m'y connais pas en médecine, mais le rapport entre la prostate et les maux au niveau des genoux.
Et les genoux, etc. C'est une très bonne question. Donc c'est pour ça que encore aujourd'hui, je reste. C'est assez dur parce que d'un côté, là, c'est quand même le médecin qui nous dit le truc. Donc, en soi, c'est possiblement vrai. Et d'un autre côté, tout le comportement tout le long colle pas, quoi. Et je me dis, on n'est pas fous, on était deux. Mon compagnon était là et a très bien vu que ça se voit qu'il faisait semblant. Donc,
ouais. Bon, après là, ça se trouve... Après, on ne sait pas. Bon, de toute façon, oui, tout ce qui est les maux de genoux, bon, ça devait être de la comédie, comme tu as pu le constater avec ton compagnon. Après, peut-être que au final, en allant chez le médecin, en fait,
ils ont découvert un vrai truc.
Ils ont découvert ça, tu vois. En fait, à force de t'imaginer des maladies, en fait, ça finit par arriver, mais pas.
C'est exactement à l'endroit où tu, ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Ouais. Je me suis dit, en fait, tellement. Qu'ils peuvent croire en leur mythomanie, qu'il s'est peut-être créé quelque chose où... Et du coup, là, aujourd'hui, j'en suis à un point où j'ai décidé, en fait, une fois que... parce qu'il doit rester 10 jours, j'ai décidé de couper les ponts après ça. Et de leur faire comprendre que ce sont des adultes responsables. Je veux dire, ils ont une maison, ils ont des terrains, ils ont une voiture. Si vraiment ils ont besoin d'argent, ils pourraient le trouver sans avoir à faire appel à nous. Mmh. Et je pense que c'est la meilleure solution pour moi aujourd'hui. Pour ma santé mentale et même pour ma santé financière, parce que je peux pas... Là, en fait, on a ouvert la brèche de quelque chose qui ne s'arrêtera jamais.
Ah, c'est sûr. C'est sûr.
Donc, c'est sûr. Donc voilà un peu où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à eux.
D'accord. Justement, aujourd'hui, en 2023, concrètement, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu te sentes... enfin plus sereine et plus épanouie, mis à part le fait de couper les ponts avec tes parents, qu'est-ce qu'il te faudrait, qu'est-ce que tu devrais mettre en place justement pour
je pense que essayer de me recentrer sur moi et enfin déjà travailler sur la culpabilité parce que cette décision que j'ai prise, même si je suis décidée, je sais que ça va impliquer de la culpabilité quelque part.
Oui, c'est sûr.
Et il faut que je trouve une solution pour pas que finalement ce soit quand même moi que je punis, malgré cette décision qui est indispensable si on veut s'en sortir, quoi. Mmh. Et franchement, je sais pas encore trop quoi mettre en place. Je sais juste qu'il faut que je me recentre sur moi-même et que je trouve le moyen d'enfin vivre ma vie sans avoir ce poids en arrière-plan de mes parents sur les épaules et de me donner le droit d'être heureuse sans que ce soit leur bonheur qui dépende de moi, en fait. De faire dépendre mon propre bonheur à moi, de moi et pas ne plus les avoir dans l'équation.
D'accord. Et est-ce que justement tu as prévu de consulter de chercher de l'aide auprès d'un professionnel pour t'aider justement dans ce cheminement?
Franchement, oui, je pense que j'ai clairement besoin d'aide. Je pense que je sais pas encore quand exactement, ni comment, mais je pense que oui, j'ai besoin d'aide pour dépasser ça, parce que il y a des choses qui sont trop lourdes et j'ai pas envie, en fait, de continuer d'en souffrir malgré cette décision et j'ai besoin, en fait, de quelqu'un qui va m'aider à avoir du recul et surtout qui va me rabâcher que j'ai pas à culpabiliser, que je dois penser à moi et que c'est pas ma faute. Et que c'est pas à moi, en fait, de porter ce fardeau-là.
C'est ça. C'est exactement ça, ouais. C'est ça. Ok. Ok. Et on arrive à la fin, bientôt à la fin. Qu'est-ce que la Alice de 2023, devenue femme à présent, voudrait dire à la petite fille qu'elle était, une chose qu'elle n'a jamais pensé ou osé lui dire?
Je pense que je voudrais lui dire qu'elle peut être fière d'elle, qu'elle n'a pas besoin de plaire à tout le monde, en fait, pour avoir le droit d'exister. Et que même si il y aura des choses compliquées, elle va finir par trouver la paix et le bonheur qu'elle mérite et qu'il faut qu'elle s'accroche.
Ok. Et finalement, pour encourager nos auditrices et auditeurs de Détox Parents Toxiques qui sont encore sous l'emprise de leurs parents et qui souhaiteraient s'en libérer, que souhaiterais-tu leur partager?
J'aimerais leur dire que déjà, enlevez-vous la culpabilité de l'esprit parce que ce que vous vivez, c'est vraiment pas votre faute. C'est vraiment pas votre faute. Vous avez pas choisi vos parents. Ce que vous subissez, c'est pas normal. Rendez-vous vraiment compte que c'est pas normal. Prenez-en conscience. Et je sais que c'est dur et que ça prend du temps, mais il n'y a rien de plus libérateur en fait que de faire ce pas de prendre conscience et de se choisir soi en fait. Donc choisissez-vous, vous avez le droit, c'est pas de l'égoïsme, faut pas confondre, c'est pas de l'égoïsme de se choisir soi-même au détriment d'autres personnes qui en plus sont toxiques. Donc c'est juste de penser à soi, c'est s'aimer en fait. Donc ayez suffisamment d'amour pour vous-même pour faire le choix de votre propre bonheur. Et j'ai envie aussi de leur dire que moi, en fait, j'ai confiance que je serai heureuse. Enfin, je le suis déjà d'ailleurs. Je me bats pour être heureuse et pour avoir la paix et que on en a tous la possibilité. Vous pouvez être heureux et faut juste que vous ayez conscience et que vous vous libériez vraiment.
C'est super. Merci encore. Merci beaucoup, Alice, pour ta confiance et ton témoignage très, très touchant, c'est sûr. Merci de m'avoir consacré de ton précieux temps et vraiment, ça m'a fait plaisir de te recevoir dans mon émission. Je te dis à bientôt et surtout, prends soin de toi.
Merci beaucoup à toi, Nadia, pour tout ce que tu fais, qui m'a vraiment beaucoup aidée et ça m'a fait du bien de parler. Donc, merci pour tout.
Avec vraiment. Plaisir. À bientôt.
À très bientôt.
Ciao.
Au revoir.
Cette émission touche à sa fin. Encore une fois, merci Alice pour ta confiance et témoignage. Quant à vous, j'espère que cet épisode riche en émotions vous a permis de prendre conscience à travers le témoignage d'Alice que l'enfant de parents toxiques a une résilience et une force hors du commun. Si après des décennies de souffrance, malgré de lourds traumatismes, vous êtes encore là, c'est qu'il y a de belles pages à écrire dans le livre de votre vie. Ayez conscience de cela. Arrachez la plume des mains du parent toxique, entourez-vous de bonnes personnes, tracez votre route tout comme Alice et commencez à écrire votre histoire. En attendant, je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao!
It's all